être ce jeu où il y en a un qui essaye de faire sourire l'autre. Il y en a un qui essaye de rester intact et puis l'autre qui fait des grimaces, qui fait tout son jeu pour essayer de faire sourire l'autre. Vous savez, peut-être c'est le jeu auquel nous devons jouer tous les jours, toute la journée, avec le monde autour de nous. Eux, ils essayent de ne pas sourire, mais si nous, on les copie, ça n'arrange rien, mais si eux nous voient sourire, eh bien on peut apporter un rayon de lumière, comme disait notre frère tout à l'heure. Vous savez, nous chrétiens, nous sommes comme la lune. Pas de lumière en nous. Nous pouvons briller uniquement quand le soleil brille sur nous. Et il y a des moments où la lune est pleine, c'est-à-dire le soleil brille sur toute la lune, et donc on voit une lune pleine. Il y a des moments où la lune, on ne voit que la moitié. C'est parce que le monde est entre le soleil et la lune. Et vous savez, parfois, nous aussi, notre visage ne luit pas de la lumière céleste parce que le monde est arrivé entre nous. Hein? Donc, s'il n'y a pas ce reflet hein, qui montre qu'on est en communion avec notre soleil, Jésus-Christ, alors il faut un peu se déplacer. Hein? Il faut pas laisser que le monde vienne entre nous, mais que le monde nous voit et voit la lumière céleste luire sur notre visage. Nous continuons notre série d'études avec la vie de l'apôtre Paul. Et donc, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans les Actes des Apôtres, et au chapitre 22. Actes des Apôtres, chapitre 22. Le titre de ce matin, c'est « La mise en place d'un ministère ». Un ministère tel que celui de l'apôtre Paul n'existait pas auparavant. Il n'était même pas possible. Mais Dieu va mettre en place cette possibilité d'avoir un ministère tel que celui de l'apôtre Paul. Dans ce passage de Actes chapitre 22, eh bien, le Seigneur apparaît à Saul. Hein, il s'appelle encore Saul, là. Donc, verset 17, je vais lire verset 17 à 21. Actes 22, verset 17 à 21. « Dit de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il, c'est-à-dire Jésus le Seigneur, me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » Je t'enverrai au loin vers les nations. Un ministère nouveau. C'est la première fois que quelqu'un est envoyé au loin vers les nations. C'est pas une chose facile à mettre en place. Et le Seigneur, c'est lui-même qui devra mettre tout cela en place. Le Seigneur dit à Paul, il dit, écoute, je sais que tu veux être à Jérusalem et tu veux rendre témoignage de moi là où tu étais. Mais il a dit, ils ne recevront pas ton témoignage, ils ne peuvent pas t'entendre, tellement ils ont des choses contre toi qu'ils ne peuvent rien entendre. Tu ne peux pas avoir de témoignage, donc quitte Jérusalem et je te donnerai un ministère ailleurs. Va, je t'enverrai vers les nations. Comment pouvait-il remplir cette mission? Eh bien, premièrement, nous allons voir que Dieu va préparer le terrain. Deuxièmement, que Dieu va préparer l'Église. Et troisièmement, que Dieu va préparer le serviteur. On peut avoir un projet, mais il y a de la préparation à faire. Et Dieu, dans sa sagesse, prépare. Le terrain, il va préparer le terrain. très intéressant comment Dieu prépare le terrain parce qu'il prend 3-4 siècles pour préparer le terrain. Le terrain, il commence à le préparer dès que l'empire grec se met en place. Avec, vous avez été à l'école, au collège, vous avez vu l'empire, Alexandre le Grand, peut-être ça vous dit quelque chose. Alexandre le Grand, un jeune homme qui a pris le pouvoir et qui s'est déplacé rapidement et qui a pris possession de tout le monde connu, en tous les cas, depuis Rome jusqu'en Inde, jusqu'en Égypte profonde, à Haute Égypte. Il a tout pris ça en très peu de temps, un jeune homme. Et cet empire grec était déjà prévu par Dieu. Si vous regardez dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu une statue. Et cette statue était composée de plusieurs métaux. Donc Daniel chapitre 2, versets 36 à 38. Tout cela, cette vision est pendant la période de l'empire babylonien, donc avec le roi Nebuchadnezzar. Donc c'est avant que l'empire grec existe, avant que l'empire romain existe, avant que tout cela. Et donc je lis dans Daniel chapitre 2 et à partir du verset 36 et 38. Il dit voilà le songe, hein, parce que vous pourrez lire le reste avant, mais voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux habitent des enfants, des hommes. C'est pas exactement ça que je voulais. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Et la tête d'or pur représente l'empire babylonien, celui de Nebuchadnezzar, tel qu'il était à l'époque. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, qui représente l'empire grec. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, qui représente l'empire romain qui a suivi. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, et donc représente la fin de l'empire romain, qui était vraiment branlant, comme le fer et l'argile ne se mélangent pas. C'était pas, et donc ça s'est écroulé. Mais je ne vais pas rentrer dans l'explication, mais ce que Dieu annonçait, c'est qu'il y avait deux empires qui allaient suivre celui de Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. Il y avait l'empire grec et ensuite un empire romain. Et l'empire grec s'est répandu sur tout le monde, tout le bassin de la Méditerranée. Finalement, c'est là que la Méditerranée reçoit son nom, elle est au milieu des terres. Il y a des terres tout autour. Et donc, il impose une langue, la langue grecque, à toutes ces nations. Il y a une langue universelle, le grec. L'hébreu n'était plus la langue. L'hébreu était déjà devenu une langue morte. Les enfants d'Israël, les juifs, à l'époque de Jésus déjà, ils ne parlaient que l'araméen. Depuis qu'ils sont sortis de Babylone, eh bien, ils parlaient de l'araméen et continuaient. Et l'hébreu était une langue morte, ce n'était pas une langue qui pouvait être utilisée. Mais parce que l'empire grec s'était répandu, et parce que l'empire grec était un empire qui a propagé et l'éducation, et l'intellectuel, et l'étude, et la science, et beaucoup d'autres choses que nous étudions encore aujourd'hui, eh bien, Dieu a mis en place une langue universelle grâce à cet empire. Alexandre le Grand, et il c'était de 356 avant Jésus-Christ jusqu'à 323, donc une période très courte, mais la langue grecque était répandue partout. Ensuite, ça a été suivi par l'Empire romain. L'Empire romain qui était un empire qui était surtout caractérisé par son armée. Et parce qu'il avait une armée, parce qu'il voulait contrôler ce monde depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à toute la Méditerranée, hein, tout autour de la Méditerranée, il fallait des routes pour déplacer ces armées. Donc ils ont pris le temps de faire des routes, et vous connaissez les routes romaines, c'est du pavé. Et pour l'époque, c'était de l'autoroute. Hein, c'était des moyens de faire déplacer ces armées. Et donc, comme il y avait des routes qui permettaient de déplacer les armées, tous les autres en profitaient aussi pour se déplacer. Et tout le long, se créaient des centres commerciaux, des villes se développaient, et le commerce se développait dans tout l'Empire. Et donc, grâce au premier empire, il y a une langue universelle. Grâce au second empire, celui romain, il y a des routes et les moyens de communication et les moyens de transport qui sont mis en place. Et lorsque l'évangile arrive, eh bien, tout est en place pour que l'évangile puisse se répandre. En plus, il y a la diaspora juive. Tous ces juifs qui sont déplacés. Vous connaissez l'histoire du peuple juif. Depuis Abraham jusqu'à ce qu'il rentre en Égypte sous Jacob, ce sont des bergers. Hein, c'est la vie pastorale. Ensuite, en Égypte, de l'Égypte, ils partent en Canaan. Arrivés en Canaan, ils sont propriétaires de terrains et donc ils deviennent agraires. C'est la vie agricole. Mais avec l'Empire grec et romain, tout d'un coup, ils deviennent commerçants. Et étant commerçants, ils commencent à se déplacer partout dans le monde. Et donc, dans toutes les grandes villes de l'Empire romain, déjà grec, ils commencent à s'installer, mais l'Empire romain, dans toutes les grandes villes, il y a des communautés juives qui s'installent et ils font du commerce. Et ils se mettent en place. Et voyez encore comment Dieu est en train de préparer le terrain, parce que vous savez, quand l'apôtre Paul va commencer, eh bien, il aura les routes pour se déplacer. Il y aura les moyens maritimes, les bateaux sont là, les routes sont là pour se déplacer. Il y a une langue qu'il peut utiliser, il peut aller dans n'importe quel pays, parler le grec et les gens vont comprendre. Et il va trouver dans toutes les grandes villes, il va trouver une synagogue, il va trouver une communauté juive qui lui permettra de commencer. Et c'est là qu'il va commencer à prêcher la parole et de là, ça va se répandre dans la ville. Dieu a mis tout cela en place pour que, et il a préparé l'homme pour que l'évangile se propage rapidement, en peu de temps. Au bout de 40 ans, tout l'Empire romain a des chrétiens partout. C'est extraordinaire comment ça a pu se répandre, alors que c'était un mouvement qui était vraiment, qui est parti avec aucun moyen financier, de pouvoir, ni rien du tout, et ça s'est répandu. Normalement, le mal se répand facilement. Mais la vérité, la bonne nouvelle, mais Dieu avait mis en place cela. Et donc, nous voyons premièrement que le terrain est préparé par Dieu. La langue universelle, les moyens de déplacement, de transport, de communication. Et puis, il a mis des colonies juives partout dans toutes les grandes villes. Alexandrie, Rome, Constantinople et même jusqu'en Inde. J'ai regardé et ce qui a permis aux apôtres, par exemple l'apôtre Thomas qui est allé jusqu'en Inde, mais l'Empire grec est allé jusque dans le nord-ouest de l'Inde et Thomas est allé jusqu'à Kerala. Vous avez André, le disciple André est allé à Constantinople. Vous avez Marc qui est descendu à Alexandrie. Vous avez Paul qui est allé à Rome. Pierre était à Jérusalem, mais après il s'est déplacé parce qu'il écrit l'une de ses lettres, il les écrit depuis Babylone. Et donc, on voyage. Mais c'était parce que Dieu a mis les choses en place. C'était prévu. Les hommes n'ont rien prévu. C'est Dieu qui a prévu. Parce qu'il avait dans son plan, il voulait que les nations reçoivent l'Évangile. Et vous pouvez penser de ce que vous voulez penser de la colonisation des pays occidentaux comme la Grande-Bretagne, la France et surtout d'autres pays. Mais peu importe ce qu'ils ont fait, bien ou mal, mais ça a permis l'Évangile d'aller. Hein. Et beaucoup de nous venons de pays où, justement, qui étions des colonies et où l'Évangile est venu parce que c'était des colonies. Le premier des États-Unis. Et partout. Pourquoi? Parce que ces hommes ont fait, mais finalement, ils n'ont fait que servir le plan de Dieu. Parce que le terrain est préparé par Dieu ne veut pas dire que la tâche va être facile. Ça ne veut pas dire que Paul, il avait, c'était partout, quand il arrivait, il trouvait une foule qui l'accueillait avec des tambours et avec la musique et tout ça. Non, non, non. C'était mis en place pour un travail. Vous savez, c'est comme l'agriculteur qui prépare pour la moisson. Quand il est en train de labourer, quand il est en train de semer, c'est pas la tâche la plus facile. C'est pas dans la même joie que la période des moissons. En fait, pour cela, je veux lire dans Psaume 126, le psaume numéro 126. J'ai été rappelé de ce psaume récemment dans ma lecture personnelle. Le psaume 126 et les versets 5 et 6 nous dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent ses gerbes. » Ben oui, même si le terrain est préparé. Et avant que Paul porte ce message, il fallait que Christ meure pour qu'il ait un message à porter. Et tout est mis en place et l'apôtre Paul va faire un travail. Il va le réussir non pas parce que lui est extraordinaire, mais parce que Dieu est extraordinaire et a un plan extraordinaire et qu'il a choisi le moment propice. Il a mis les choses en place et c'était le moment. Le terrain est préparé par Dieu pour que l'Évangile puisse se répandre. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toutes les nations soient sauvées. D'abord, un terrain préparé. Deuxièmement, il y a une église qui est préparée. Parce que, comme vous vous rendez bien compte, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, les premiers chrétiens de Jérusalem, ils n'étaient pas très ouverts à l'idée que les nations entendent le message de l'Évangile. Ce n'était même pas dans leur tête. Et Dieu a dû préparer l'Église, les habituer à les préparer à une notion nouvelle de ce que dans l'Église devaient être inclus les nations. Et que ça allait bien plus loin que la nation d'Israël. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, et c'était important que l'apôtre Pierre ait ce songe. Parce que si c'était Paul, et comme on l'a dit la semaine dernière, Paul a reçu un enseignement à part, et lui, il était déjà préparé par le Seigneur pour porter ce message aux nations. Mais si Paul avait eu cette notion sans que Pierre l'ait, on aurait dit, ah, Paul, il a une nouvelle doctrine qui est différente de celle de Pierre. Et donc, il était important que Pierre ait une vision et que lui puisse porter cette vision à l'église de Jérusalem. Et ainsi, Paul serait reçu avec son fardeau. Et donc, dans Actes chapitre 10, il y a Dieu qui prépare Pierre afin de préparer l'église. Actes chapitre 10... Et je ne vais pas lire tout le passage, mais je commence au verset 9. Donc, un ange avait apparu à Corneille, un non-juif, et lui avait dit « Envoie des hommes, cherchez Pierre, il t'apportera le message. » Mais Pierre, dans l'état où il est, il ne serait pas prêt à y aller. Et donc, Dieu prépare, verset 9. Donc, acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure, c'est-à-dire midi, pour manger, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait, qui s'abaissait sur la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. En fait, tous des animaux cérémonialement impurs. Si vous prenez l'Ancien Testament, il y avait pas mal d'animaux qui étaient considérés comme impurs. Donc ce drap, cette nappe est remplie d'animaux que quand Pierre les voit, il dit ça, c'est tous des animaux impurs. Je ne dois ni les toucher, ni rien faire. Ça c'est son éducation juive. Verset 13. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit entendre, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Il dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Si je te dis, mange, tu manges. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Bien sûr, lui, il est sur la terrasse et il entend qu'on frappe à la porte. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'esprit lui dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. « Car c'est moi qui les ai envoyés. » Ça ne va pas être facile pour Pierre. Parce que tout d'un coup, il va aller contre toute son éducation. Déjà, aller avec les païens, il va aller chez eux, il va manger avec eux. Ah. Mais Dieu lui a parlé. Et on arrive à la fin du chapitre, et au verset 44, donc acte 10, 44, dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Parce qu'il faut comprendre que eux, dans leur tête, ce n'était pas possible. Dieu ne ferait pas ça. Et pourtant, il est en train de le faire. C'est pour ça qu'ils sont étonnés. Verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ce qui est remarquable, c'est pas le fait de parler en langue, c'est qu'ils parlent en langue comme eux ont parlé en langue en Actes chapitre 2, de la même manière. C'est exactement le même phénomène. Il est identique en tout. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés dans leur esprit de faire un lien. Et donc au verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, tout ça, Pierre est dirigé par Dieu. Pierre, mais c'est une idée tellement nouvelle, mais en même temps, il ne peut pas résister. Dieu est en train de travailler. Et bien sûr, le chapitre 11, acte chapitre 11, Pierre, il doit retourner à Jérusalem et on va lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'on entend que tu as fait là-bas à Césarée? Et Pierre va raconter aux apôtres et aux responsables de Jérusalem, il va leur raconter exactement tout ce qui s'est passé. Et puis à la fin, il va leur dire, encore une fois, il va leur dire, écoutez, verset 15, chapitre 11, verset 15, acte 11, verset 15, il dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Comme, c'est très important, comme, de la même manière, identiquement. « Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Le résultat, et c'est ça qui est merveilleux, verset 18, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Il fallait préparer l'Église primitive pour cette notion, les nations pourraient être incluses dans l'Église de Jésus-Christ. Nous, on est un peu habitués. Hein? C'est presque aujourd'hui, on est au point où c'est, on veut bien inviter les Juifs, ils peuvent se joindre à nous. Mais là, c'était le contraire. Et c'était une notion nouvelle. Mais il fallait, et c'est ce qui est beau, c'est qu'il dit qu'ils se calmèrent, parce que bon, ils étaient échauffés, là, c'était des Juifs, hein, ça s'échauffe, il paraît. Et ça se transforme en gloire. Ils glorifièrent Dieu de ce que Dieu accorde la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie, la même vie. Et là, c'était une préparation extraordinaire. Et donc, nous arrivons dans le chapitre 11, on continue dans ce chapitre 11, et au verset 19. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des disciples qui commencent à se disperser. Et au verset 19, il dit, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. » Mais verset 20, « Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne parole, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a osé prêcher à Antioche et les personnes ont cru. Et Dieu a fait la même œuvre dans leur vie. Et ils ont reçu la vie. Et verset 22, il dit, « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. » Ils s'étaient réjouis de ce Corneille, ah, « c'est très bien. » Mais bon, vous savez, on ne change pas les habitudes facilement. Et maintenant arrive la nouvelle qu'à Antioche, le message est prêché à des Grecs, des non-juifs, et ils se convertissent, et c'est la même œuvre. Et on voit les mêmes transformations, c'est la même œuvre dans leur vie. Et alors, rapidement, on envoie quelqu'un. Il nous dit au verset 22, la deuxième partie, ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lui va arriver là-bas. Et au verset 23, il dit, « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Ça c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment contre nature à l'époque. Mais Dieu est en train de préparer. Dieu avait préparé le terrain. Il a préparé la langue, il a préparé les voies, il a dispersé les Juifs un peu partout. Et ensuite, maintenant, il doit travailler sur l'Église. Et il doit apporter un changement dans leur pensée, qu'ils soient prêts à ouvrir le message pour toutes les nations, pour tout le monde. Tout le monde est inclus. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est dans ce verset 26 et la deuxième partie, il dit « Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. » Les premiers qui sont appelés chrétiens sont des gens de partout. C'est pas à Jérusalem qu'on est chrétien, puis les autres, vous pouvez aussi devenir chrétien. C'est à Antioche où l'église est mélangée, parce qu'Antioche c'était une ville où c'était multiethnique. Antioche, parce que c'était un croisement nord-sud, est-ouest, il y avait des gens de partout, et apparemment il y avait même des Chinois et des Indiens, et il y avait tout là, à Antioche. Et donc ce message est là, et dans l'église on voit ce mélange, et Dieu a choisi Antioche, parce qu'il y avait ce mélange, pour démontrer que le message était pour toutes les nations. Et là, il le met à l'œuvre, et ça marche. Et l'œuvre se fait. Vous savez, quand Dieu ouvre une porte, eh bien, il s'engage à recevoir quiconque. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur culture, quel que soit leur arrière-plan religieux, c'est pas seulement que ces aspects-là, mais en plus, la personne, son état moral, peut-être ça a été un dominateur, peut-être ça a été une victime, peut-être c'était un maître, peut-être c'était un esclave, peut-être c'était un homme, peut-être c'était une femme, peut-être c'était un aïeul, un grand-parent, et peut-être c'était un enfant. Tous sont inclus, sans distinction. Et nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas faire de distinction. Il n'y a personne qui est privilégié. Tous sont inclus et tous sont appelés chrétiens. Hein? Les premiers disciples, où l'Église est vraiment un rassemblement de gens de partout, c'est là où ils sont appelés chrétiens. Et c'est avec fierté que nous devons porter ce nom de chrétien, hein, de chrétien. De gens qui appartiennent à Christ, des gens qui suivent Christ. Et ce n'est pas la religion du blanc, hein, surtout, sortez ça de votre tête. C'est ce que Dieu a voulu. Et Dieu a mis ça en place, il a commencé à mettre ça en place 4 siècles avant Jésus-Christ, pour que ce soit possible dans les années 70 de mettre ça, de réaliser ce projet, et maintenant il ne fait que se répandre. Et nous en sommes les bénéficiaires. Dieu ne demande pas à ce que nous nous changions pour devenir chrétiens. Il nous dit, viens comme tu es, dans l'état où tu es, avec toutes les blessures, et peut-être même si tu as des plaies purulentes, du point de vue moral, ou tu as des plaies saignantes parce que tu es victime. Peu importe que ce soit physique, que ce soit psychique, peu importe dans quel état tu es, viens, il dit viens, et c'est le Saint-Esprit qui prend en charge. Ce n'est pas le pasteur qui prend en charge, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prend en charge, c'est le Saint-Esprit qui prend en charge. Et quand l'Esprit, le Saint-Esprit fait une œuvre, eh bien, il commence de l'intérieur et il transforme non pas la culture, il transforme l'homme. Ce qui importe, ce n'est pas mon apparence, d'abord, c'est ce que je suis. Hein? Et Dieu nous dit, venez tel que vous êtes, quelles que soient vos idées déjà. Vous savez, on parle de Pierre, mais Pierre, il avait des idées un peu bizarres aussi, mais il était déjà apôtre. Hein? Il n'y a pas besoin d'être transformé pour que Dieu se... Il ne faut pas que tout soit corrigé dans votre tête. Pendant toute votre marche sur terre, Dieu va être en train de corriger, mettre de l'ordre dans la tête. Hein? On vient avec nos idées préconçues, Pierre est venu avec les siennes, d'autres viennent avec les leurs, mais le Saint-Esprit fait une œuvre, et que ce soit le Saint-Esprit. Donc restez attachés à la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit ne se sert que de la parole de Dieu. Hein? On dit que Dieu a préparé le terrain, Dieu a préparé l'Église primitive, et maintenant Dieu prépare son serviteur. Saul de Tarse avait rencontré Jésus sur le chemin vers Damas. Il a rencontré celui qui était son Seigneur. Il s'est levé, il est rentré à Damas. Au bout de 3 jours, Ananias vient lui parler, lui impose les mains, il est baptisé. Le lendemain, il se met à prêcher. Et a démontré que Jésus est le Christ. Mais ce n'est pas très bien reçu. Il a très vite, ça attire des ennuis. Il doit fuir pendant la nuit au-dessus de la muraille. Il disparaît dans une corbeille et puis il part. Et il part, et comme on l'a vu, il y a 2 dimanches, il est parti dans le désert de l'Arabie. C'est-à-dire dans le Negev, dans le sud, dans la péninsule arabique, la péninsule de Sinaï. Et là, eh bien, seul avec Dieu, il est en train de repenser toute son éducation. Et c'est là où Dieu est en train de lui travailler, lui dire, écoute, mais depuis Abraham, Dieu veut présenter un message de salut aux nations. Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et Paul commence à voir ça. Et pendant qu'il est en train de changer, autant bien le changer, et Dieu lui refait toute la tête. Et il revient, au bout de 3 ans, il revient et il arrive à Jérusalem. Et les apôtres, ils ne sont pas trop prêts à le rencontrer parce que c'est quand même Saul, hein, on connaît Saul. Mais c'est Barnabas. Vous voulez faire une étude intéressante, faites une étude de Barnabas. C'est Barnabas qui le reçoit, Barnabas qui discute avec lui, qui est rassuré par rapport à la transformation dans son cœur. Et certainement que la discussion entre Paul et Barnabas commence à comprendre, et oui, le message est pour les nations. Et lui, il a pris de l'avance sur Pierre, même peut-être. C'est pour ça que quand il fallait envoyer quelqu'un à Antioche, qui est-ce qu'on envoie ? Barnabas, qui déjà à sa tête, il a été déjà reprogrammé. Et lui, il arrive à Antioche, il est tout prêt. Hein, puis finalement, c'est lui qui va accompagner Saul, hein, les premières années. Mais Paul arrive à Jérusalem, il parle avec Pierre, tout ça, mais ça ne passe pas. Et puis il veut témoigner, et ça ne passe pas. C'est ce qu'on a lu dans l'acte 22. Et finalement, il essaie de prêcher aux hellénistes, parce qu'il avait élevé avec eux à Tars. Il commence à prêcher, et eux veulent le tuer. Et donc c'est là le Seigneur lui dit, écoute, ici, tu ne peux rien faire à Jérusalem, il faut que tu partes. Paul aura passé 15 jours avec Pierre quand même. Mais c'est Dieu qui doit faire le travail. C'est pas Paul qui pourra parler à Pierre pour lui ouvrir la pensée, la vision. C'est Dieu qui le fera. Et c'est lui, par ce songe dont on a parlé, qui lui ouvrira la vision nouvelle. Saul de Tarse va quitter Jérusalem. Il va aller rentrer dans sa ville, à Tarse. Il retourne à Tarse. Et puis, ce qui est extraordinaire, et je ne peux pas vous donner d'explication, mais il sera là pendant presque 7 à 8 ans. 7 à 8 ans, il n'y a rien qui se passe. L'homme est là. Il est préparé, il a la vision, il y a peut-être encore du travail à faire, mais l'homme est là en place, et Dieu est en train de préparer l'église primitive entre-temps, pour les préparer. Il y a les choses qui se déclenchent à Antioche. Et si vous êtes encore dans Actes chapitre 11, vous voyez qu'au verset 25, Barnabas est arrivé, il a trouvé les choses à Antioche, il était, c'est merveilleux, c'est encourageant. Et tout de suite, il a eu une idée. Il a pensé à qui ? Saul de Tarse. Il dit, celui qui est déjà préparé, je sais qui c'est Saul de Tarse. Je vais le chercher. Au verset 25, il nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et Antioche, voilà le terrain propice, hein, la base de lancement, hein, de ce programme nouveau. Et donc pendant une année, ils vont être là à Antioche. Et on arrive au verset chapitre 13, et les premiers versets, dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui était élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Vous voyez que c'est des gens qui sont un peu, c'est pas tous des juifs, hein, ils sont en fait un peu un mélange de tout. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. Voilà, tout a été mis en place. Saul n'a pas besoin d'apprendre une nouvelle langue. Il a déjà étudié, il parle le grec. Il était mis en place. Il avait déjà la citoyenneté romaine. Hein, il était né à Tars, donc il était romain. Il avait le laissez-passer, le passeport qui lui permettait de circuler n'importe où. Il a fait une formation dans le désert. Dieu lui a donné une vision. À Antioche, il a vu les choses, comment elles se faisaient. Maintenant, c'est une question d'aller le reproduire. Et donc, la méthode de Saul, quand il se partit, c'est d'aller vers les villes, trouver les synagogues, prêcher dans les synagogues, mais les synagogues étaient les points de lancement dans chaque ville. Et c'est ainsi que le message de Dieu s'est propagé. Dieu a un plan. Et parfois, nous avons l'impression, et parfois, on se demande, et peut-être vous avez eu cette pensée, de temps en temps, vous dites, mais où est Dieu dans tout ça? Écoutez, Dieu est là dans tout cela. Et Dieu prépare. Et Dieu, c'est un plan qu'il a préparé. S'il a pris 400 ans, quand on pense qu'en 7 jours, il a fait ce monde, et là, il prépare quelque chose en 400 ans, il contrôle les choses. Et nous n'avons pas à craindre. Ce que nous avons à comprendre, c'est que le message de l'Évangile est pour tous. Les gens que j'aime et les gens que j'aime pas. Les gens avec qui je m'entends et les gens avec qui je m'entends pas. Ça, c'est pas mon problème. Il m'a dit que Christ est mort pour que tous soient sauvés. Et ils ont besoin d'entendre. Et Paul, c'était pas quelqu'un qui était digne d'entendre l'Évangile. Mais Dieu l'a choisi. Il avait une préparation extraordinaire et Dieu dit, et avait même dit à Ananias, il a dit ça, c'est un homme que j'ai préparé et j'ai un plan pour lui. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Ça veut dire que rien n'est au hasard. C'est-à-dire le fait que vous soyez enfant de Dieu n'est pas un hasard. C'est pas vous qui vous êtes accroché au pan de la robe de Dieu, mais c'est lui qui vous a tendu la main et qui vous a invité. Et il a une place pour vous et il a un plan pour vous. Et vous rentrez dans son plan. Ce n'est pas une question de Dieu, je voudrais que tu fasses ça pour moi. Je voudrais... Non, c'est une question de Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ça doit être notre attitude. Et Dieu a préparé. Et lorsque on regarde en avant, après un certain moment, on regarde en arrière et on voit que Dieu quand même avait un plan. Vous savez, quand je suis arrivé à Saint-Denis en 1976, il n'y avait rien, je ne connaissais personne. Ma fille aînée, Rachel, est née, il n'y avait personne pour venir la voir. Pourtant, elle était belle, mignonne, tout, hein. Mais il n'y avait pas une personne qui s'était déplacée pour la voir. Elle est née à Saint-Ouen. Elle ne connaissait personne. Ma femme était seule à la maison et personne. Téléphone, il n'y avait même pas de téléphone à l'époque. Et il y avait seulement une assurance que Dieu dirigeait. Donc maintenant, quand on regarde en arrière, on dit, ah oui, je comprends. Hein? Et quand je sais, il y a pas mal de personnes, même ici, ils étaient déjà là à l'époque. Et puis il y a d'autres que le Seigneur a déplacés par ici pour qu'ils soient dans cette église. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas le savoir. Hein? Quand on pleurait tout seul. Quand on passait toute la semaine à essayer de parler, je passais dans les bars, j'essayais d'accrocher n'importe qui, le balayeur, je l'accrochais même pour lui parler, n'importe qui! Une semaine, et puis il n'y a rien du tout, il n'y a rien des semaines, une deuxième semaine, troisième semaine. On a fait, même les trois premières années, il n'y avait pas grand-chose à voir. Mais Dieu a un plan. Et il faut persévérer. Et puis finalement, il y a eu l'encouragement. Il y a quelques-uns qui sont arrivés, qui sont encouragés, on a continué. Il y a quelques-uns ici qui sont anciens, ils savent comment ça a commencé. Alors, j'ai des témoins, je suis en train de parler devant des témoins. Donc ils peuvent, hein, Ben Ismaël est là, Jean-Michel était là à l'époque, ma femme était là. Heureusement, hein, sinon j'aurais pas tenu. Mais il y a d'autres. Mais le travail, Dieu a un plan. Et ce que les autres peuvent penser du 93, Dieu a pensé au 93. Et Dieu veut faire, et Dieu veut que cette église soit seulement qu'elle existe, mais qu'elle rayonne et qu'elle soit un encouragement, une preuve que Dieu peut encore faire le travail n'importe où. Et nous devons vivre cette vie. Et nous devons vivre cette transformation. Pour que les gens disent, je croyais que Dieu n'existait plus, mais apparemment ça existe. Et qu'ils voient. Comment est-ce que je sais que la lune existe? Parce que le soleil brille sur la lune. Comment est-ce que le monde va savoir que Dieu existe? C'est lorsqu'il le voit briller en nous. Dieu, s'il a pris autant de peine pour préparer, eh bien, c'est que c'était important, c'était près de son cœur. Et maintenant, nous aussi, nous représentons une grande partie du monde. Nous devons prier pour les besoins d'ici, nous devons prier pour les besoins des pays desquels nous sommes issus, nous devons prier pour les milieux dans lesquels nous avons vécu avant de connaître le Seigneur. Et Dieu utilise toute cette expérience. Peut-être c'était des mauvaises expériences, mais c'était de la formation. Et Dieu veut l'utiliser. Et Dieu veut nous utiliser. Mais il ne n'utilise que des gens disponibles. Et nous devons nous placer, et chacun de nous. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur, alors vous êtes inclus dans ce message pour les nations. Dieu avait a dit à Saul, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et avec tout ce que cela représente et tout ce qui est inclus. Et nous sommes les nations et nous sommes inclus. Vous êtes inclus dans le plan, pas pour venir à la religion chrétienne, mais pour venir à la vie en Jésus-Christ. La question c'est maintenant, est-ce que mon état spirituel est tel que Dieu pourrait m'utiliser? Est-ce que je suis vraiment disponible? Vous savez comment c'est dans la cuisine, hein? Je passe souvent dans la cuisine, mais de temps en temps. Vous savez, quand la femme de la maison est en train de faire la cuisine, elle a besoin de récipients. On ne les mange pas, ils ne sortent pas de la cuisine, hein, c'est toujours des beaux plats qui arrivent. Mais le plat était préparé dans des marmites, dans des casseroles. Mais vous savez, elle emploie toujours des casseroles propres, des marmites propres. Et celui qu'elle voulait, hey, il n'est pas propre, va prendre un autre. Et vous savez, nous chrétiens aussi, le Seigneur il regarde, il dit, oh j'aimerais bien, hop, il n'est pas propre, moi je prends un autre. Parce que Dieu veut faire son travail. Pour être disponible, c'est pas Seigneur, quand tu m'appelleras, alors là je nettoierai ma vie. Non, il dit, laisse tomber. Mets-toi propre, disponible sur l'étagère, en place, nickel. Et puis là, quand j'aurai besoin, je t'utiliserai. Et ce sera un privilège pour nous d'être utilisés par lui. C'est lui le cuisinier. Tous les compliments iront au cuisinier, pas à la casserole. C'est vrai, mais c'est un plaisir d'être la casserole qui a été utilisée. N'est-ce pas? Et c'est le plus grand privilège que nous pouvons avoir. À chacun de nous voir, de voir d'abord si nous sommes au Seigneur. Ce message est pour nous. Hein. Le Christ est mort pour les sauver tous les hommes et n'importe lequel. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes enfant de Dieu, eh bien, vous avez une place dans ce plan. Et Dieu veut se servir de vous comme lampe dans ce monde. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que ma vie est propre pour que lui puisse l'utiliser? Est-ce que le Saint-Esprit peut continuer à faire son œuvre en nous? Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes là face à ta parole, face à ton œuvre, une œuvre merveilleuse. Une œuvre qui a été commencée il y a 2000 ans et qui n'a pas arrêté encore. Parce que tu l'avais mis en place et quand toi tu mets en place, tu as fait les calculs et tu veux que ça continue. Seigneur, nous en sommes les bénéficiaires, nous jouissons de cette œuvre que tu as commencée. De cette vision nouvelle que tu as accordée à l'Église primitive. Nous sommes tous ici des non-juifs et nous avons été inclus. Et Père Céleste, maintenant, ouvre notre vision pour que nous regardions ceux qui sont autour de nous et que nous voyons tous comme des personnes qui pourraient être sauvées, que toi tu voudrais sauver, parce que tu ne veux qu'aucun périsse. Père Céleste, ce que nous voulons être, c'est en état de pouvoir servir. Tu as préparé Saul, oui, il était disposé, et tu l'as préparé dans le désert, et tu l'as préparé à Tarse, nous ne savons pas ce que tu as fait là. Ce sont des années silencieuses, mais quand tu avais besoin de lui, quand l'église d'Antioche avait besoin de lui, eh bien, il était prêt. Et Seigneur, nous voulons être prêts aussi. Seigneur, touche chaque cœur et parle à chacun selon son besoin. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Père Céleste, c'est en ton nom, au nom de ton Fils Jésus, que nous prions. Amen. Continuons dans cet esprit de prière.